Robert Schneider, dans le Nouvel Obs, le désintérêt pour l'élection et au-delà pour le Parlement de Strasbourg et de Bruxelles est quasi général. C'est le cas, alors, dans les pays fondateurs et plus encore, semble-t-il, chez les nouveaux entrants, dont on pouvait espérer que les citoyens auraient à cœur d'utiliser leur nouveau droit de vote. Eh bien non, en République tchèque, en Hongrie, en Estonie, la participation devrait à peine atteindre 30%. En France aussi, le paradoxe est grand. D'un côté, des Français qui se sentent de plus en plus européens, tous les sondages le montrent. Ils sont favorables à une défense commune, à une armée européenne, à un président de l'Europe élu, et mais de l'autre côté, une campagne électorale qui n'a jamais été aussi morne, un désintérêt qui n'a jamais paru aussi grand, et des élections européennes une nouvelle fois menacées par une abstention qui est en hausse régulière depuis 79 et qui a inspiré un bon mot à Alain Madelin qui dit « Les élections sont le 13 juin, mais ne le répétez pas, car personne ne le sait ». Bref, on a l'impression que parler de l'Europe aux Européens, c'est exactement comme si on leur parlait de la planète Mars. Eh bien, mon cher Nicolas, je terminerai là-dessus. Je vous conseille la lecture de la revue des deux mondes du mois de juin, de ce mois de juin, « Vivre sur Mars », avec des scientifiques, des sociologues, des problèmes d'atterrissage, des questions d'épopée, de voyage, de collecte d'échantillons, de petits hommes verts. On jurait franchement qu'on nous parle là de l'Europe. Et puis, on doit dire que du train où vont les jours, si ça se trouve, c'est vrai qu'on aura colonisé la planète rouge et que l'Europe sera toujours une vue de l'esprit.
Merci beaucoup Jean-Louis Aisine et à lundi. Merci à Anne Ducourau qui réalisait l'émission. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang, et un grand bonjour à Claude Courteau qui est également en régie. Il est 9h11 sur France Culture. Joie, pleurs de joie, lecture du mémorial et des pensées de Pascal, c'est le thème des Vendredis de la philosophie. Raphaël Antoven, à lundi.
Commentaire. Le mémorial et les pensées de Pascal, une émission proposée par Raphaël Antoven. Ô temps, suspends ton vol, demande pompeusement Lamartine. D'accord, répond Alain, mais pour combien de temps ? Pour Blaise Pascal, ça a duré 2 heures. C'était il y a 350 ans, le lundi 23 novembre 1654, de 22h30 à minuit et demi. Pascal avait 31 ans et mourrait 8 ans plus tard d'une tumeur à l'estomac quand il fit l'expérience inouïe du Dieu sensible au cœur et qu'il rédigea dans l'Allégresse les 32 lignes du mémorial où repose comme un mystère à livre ouvert le plan du livre qu'il n'écrira jamais. En ce temps-là, le philosophe était plutôt déprimé, paraît-il. Après la mort de son père, 3 ans plus tôt, et tandis que sous ses conseils, sa sœur Jacqueline entrait au monastère de Port-Royal, Pascal, lui, brillait en société devant La Rochefoucauld ou devant les Libertins. Mais dans une lettre à Jacqueline, l'homme décrit son désarroi chez les Pans et se raconte perdu en société, abandonné de Dieu, allergique aux amusements du monde et saisi par l'ennui. Les hommes se lèvent, se comparent, travaillent et ne supportent pas de rester dans leur chambre. Ils perdent leur temps, vont à l'église, au temple, ils spéculent, ils s'enrichissent, ils partent en vacances pour se reposer des activités qu'ils reprennent ensuite. Ils compatissent, ils s'aiment, ils s'entretuent, ils seraient désespérés de n'avoir rien à faire. En un mot, tout le monde fait diversion, tout le monde se divertit. Pour ne pas voir notre état misérable, on s'intéresse à notre condition. On fait des plans de carrière, on joue à la roulette, on chasse le sanglier, dit Pascal. Plutôt se plaindre que d'être à plaindre. À tous ceux qui, les yeux bandés, préfèrent les petites morts au salut de leur âme, Pascal enseigne dans ses pensées qu'il faut se convertir. Et commencer pour cela par apprendre que nous sommes des esprits inutiles, des centres pathétiques nés par hasard entre deux infinis, que le vertige épouvante et que le divertissement soulage. Pascal est de ces philosophes déplaisants qui ne dissimulent rien du néant. Pascal, c'est un commun des mortels qui n'a plus la chance ou la faiblesse de croire en ses illusions. Le père Guerrier raconte que, peu de jours après sa mort, un domestique de la maison découvrit sur Pascal, cousu dans le pourpoint de son vêtement, 2 exemplaires, l'un dans l'autre, du texte du mémorial. La plupart des morts gardent sur eux l'objet qui leur ressemble le plus, le miroir qui les décrit le mieux, la chose à laquelle ils tiennent par-dessus tout. Or, ce qui est très étonnant, c'est que le mémorial, le fétiche de Pascal, donc, est un texte dont, étrangement, pas une phrase n'est de lui, mais dont toutes viennent de la Bible. Autrement dit, Le secret de Pascal, le texte qui lui tient le plus à cœur, consiste dans la parole d'un autre, et le seul objet qu'il possède vraiment ne lui appartient pas. Pour évoquer le mémorial, ce texte halluciné, j'ai invité Jacques Dariula, aujourd'hui professeur à l'université de Paris 4, mais qui autrefois enseignait en classe préparatoire et dont le cours sur Pascal avait converti beaucoup d'entre nous à la cause de la philosophie.
L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe. Veille de Saint-Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum, ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Je m'en suis séparé. De reliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen.
Le mémorial, et c'est une des surprises.
Jacques Dariula.
La chose qui est étonnante pour ce texte, c'est qu'il a été écrit pour ne pas être lu. Et la seconde chose, c'est qu'on s'attend donc à quelque chose de très intime, très personnel, où Pascal va confesser une sorte de secret, ce qui est sa parole la plus personnelle. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit en fait une collection de citations. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est Dieu qui parle à Moïse, c'est une citation de la Bible. Nom des philosophes et des savants, c'est un commentaire de Pascal. Certitude, certitude, certitude n'est pas la vérité, elle est elle est subjective, la vérité est objective. Donc c'est ici le cœur qui est certain. Il reste encore au travail de la raison de construire le discours de la vérité.
De transformer en objectivité ce qui n'est qu'une conviction du cœur.
Exactement. Et ensuite il écrit Deum meum et Deum vestrum. D'ailleurs, là encore c'est une citation. C'est lorsque la Madeleine pleure devant le tombeau vide. Après la mise au tombeau dans l'Évangile. On peut comparer cela à la situation même de Pascal à propos de ce grand accablement, quand il éprouvait cet abandonnement de Dieu, et elle voit Jésus dans la personne d'un jardinier, et elle lui dit « Mon maître, c'est toi », et Jésus lui répond
«
Je
ne
veux pas, voilà, noli me tangere, je ne veux pas que tu me touches ». Donc « Deum meum et deum vestrum », c'est Marc, c'est la parole de et Jésus dit « Je retourne vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu ». Donc c'est une allusion à une scène qu'on peut bien dire de conversion, presque au sens mathématique, c'est-à-dire que le regard change radicalement de direction, s'inverse, et on passe en un instant du désespoir à l'espérance, et de l'abandonnement de Dieu à la rencontre presque physique, puisque on est au point de tangence, c'est le cas de le dire, avec le divin, de la rencontre avec le Fils de Dieu. Comme si, et c'est bien le cas chez Pascal, comme si la dépression, comme si l'espérance n'appartenait qu'au désespéré, pour reprendre la formule célèbre de Benjamin, comme si c'est au point le plus bas de la dépression ou de l'ennui que le cœur désarmé, dépouillé de l'appareil vain et futile du moi, peut se rendre disponible au trait de la grâce et ainsi rencontrer le divin si car ce choix est incompréhensible et nul ne peut comprendre les raisons qui conduisent Dieu à distinguer les élus d'avec les réprouvés, si, pour des raisons qui dépassent notre entendement, cette grâce touche notre cœur. Donc il s'agit encore d'une saison de la Bible. Et quand il a écrit ensuite « Ton Dieu sera mon Dieu », c'est encore une situation de la Bible. C'est une femme, Ruth, qui est allée vivre au pays de Moab et qui choisit ensuite de revenir en Israël. Et par Ruth, Ruth fait partie de la généalogie qui conduira au roi du monde, par David, par Salomon, qui conduira à Jésus. Donc Dieu utilise ainsi les marges pour introduire l'éternité dans l'histoire et réaliser le plan de la rédemption. Ton Dieu sera mon Dieu, c'est encore un choix. On peut dire que Pascal, un peu comme Ruth qui choisit d'adopter Israël, Pascal choisit d'adopter Port-Royal. Et puis, le De reliquerunt me fontem aquae vivae, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive, c'est encore une citation, c'est dans les Lamentations de Jérémie, lorsque Jérémie, enfin c'est le Seigneur qui parle et qui dénonce la futilité de son peuple qui s'est détourné de lui, et il est dangereux de se détourner d'un Dieu jaloux, comme dit la Bible, qui s'est détourné de lui, et lui seul qui pourtant est la source d'eau vive. Et puis, cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est encore une citation. C'est une citation de l'Évangile. C'est les paroles qu'adresse Jésus aux apôtres pendant la scène. Et puis, que je n'en sois jamais séparé, c'est encore une citation de l'office de la messe au moment de l'Eucharistie. La connaissance, chez Pascal, je l'ai connu, seul vrai Dieu. Il s'agit d'une fusion, alors qu'on peut dire un peu intuitive, je répugne un peu à employer le mot mystique pour un texte aussi peut-être rigoureux et construit, enfin, et qui est, à mon avis, la première ébauche d'un texte qui sera rhétorique et qui sera extrêmement construit. La question du plan dans les pensées est tout à fait fondamentale. La connaissance fait allusion au trait de la grâce qui touche le cœur et qui donne le fondement, le point d'Archimède, et ensuite il ne suffit pas de le connaître, il faut le conserver. Et d'ailleurs, tout le mémorial va de la certitude, joie, paix, joie, pleurs de joie, de la certitude de la présence de l'absolu, de ce qu'on ne peut plus mettre en doute, de ce qui donne un fondement fermé, solide à notre existence, pour employer un vocabulaire plus cartésien, à la crainte que nous ne puissions vivre, nous ne puissions nous maintenir, nous qui sommes dans le temps, dans cet intervalle d'éternité qui se marque entre 10h30 et minuit et demi. Pascal en note les bornes, puisqu'il écrit le mémorial, n'est-ce pas, après, bien sûr, après minuit et demi, donc pour retracer l'itinéraire de cette expérience. C'est un texte qui a été écrit pour ne pas être publié, puisque il demeurait absolument secret, et cela encore, il y a beaucoup de textes qui ne seront jamais publiés, mais ce qui est tout de même plus étonnant, c'est un texte qui a été écrit pour n'être jamais lu, puisque il était donc mis au secret dans la doublure du pourpoint, et l'on suppose, puisque Pascal meurt en 62, le mémorial est de novembre 54, on suppose que Pascal donc a changé d'habit et qu'il décousait la doublure de ses vêtements pour recoudre ce papier. En fait, il y avait deux papiers, le premier jet que nous avons conservé, et ce qu'on nomme le parchemin, c'est-à-dire il avait recopié au propre, même presque en dessinant certaines figures, sur un parchemin, un papier plus solide, et le premier jet, qui était un papier fragile, était contenu dans le parchemin, comme presque les ossements d'un saint dans un reliquaire. Et cet ensemble était donc cousu dans son pourpoint, donc il ne pouvait pas le lire. Il pouvait seulement, lorsqu'il glissait sa main dans la poche, eh bien sentir ce petit carré de papier dur, un peu comme, je pense, quand on fait un nœud à son mouchoir. Eh bien, il y a là un moyen de se souvenir de quelque chose d'important. Il s'agissait pour Pascal de se rappeler une exigence qu'il s'était donnée à lui-même et qui lui paraissait absolument fondamentale. Vous avez évoqué l'entrée de Jacqueline en religion.
Donc sa sœur.
Donc sa sœur, oui, donc qui entre à Port-Royal, alors que Pascal est encore jeune. C'est Pascal, un peu, qui l'a, enfin c'est Blaise, qui a poussé Jacqueline à entrer à Port-Royal, à faire ses vœux. Et curieusement, il va ensuite se détourner un peu de cette vocation en se tournant vers le monde, en se consacrant à des travaux scientifiques. Mais il faut bien reconnaître qu'il se consacrera à des travaux scientifiques même après le retour à Port-Royal. Et il y a effectivement, dans la période 53-54, un moment, on peut dire, de dépression. Pascal a un mot qui est fondamental dans son vocabulaire pour le dire. Il nomme cela l'ennui, et c'est une expérience tout à fait cruciale dans le chemin qui conduit à l'espérance et qui passe, selon lui, nécessairement par le désespoir. Et effectivement, nous savons par une lettre de Jacqueline que il se trouvait dans un grand abandonnement de Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est évidemment une allusion au mot célèbre de Jésus avant son agonie, avant la mort. Et si on peut parler de mort à propos du Christ. Et c'est donc un moment de dépression, de démobilisation totale. Et on imagine ce que la dimension, enfin, l'intensité que ça peut prendre dans un esprit de la qualité et de la force exceptionnelle de celui de Pascal, et qui se conclut par une nuit mystique, dit-on. Alors, on l'appelait ça un mémorial parce que le père Guerrier, qui a trouvé le texte et qui est à l'origine de la publication, l'a nommé mémorial. Mais il y a à cela une raison, je crois, beaucoup plus profonde. C'est que Pascal commence donc par, après avoir situé la nuit dans l'histoire du martyrologe, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres au martyrologe, donc dans l'histoire de l'éternité, dans le plan de la rédemption, il commence par ce mot « feu », qui est écrit en majuscule, qui est assez extraordinaire. Je pense toujours que le mot « feu » est le dernier mot qu'entend un supplicié avant un fusillé, avant que la salve ne parte. Et il écrit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». Et il commente cette citation « Nom des philosophes et des savants ». Or, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est exactement ainsi que Dieu se définit à Moïse. Moïse qui évite de voir le feu justement face à face et détourne le visage. Par conséquent, Pascal s'assimile dès la première ligne à Moïse devant le buisson ardent sur le mont de l'Horeb. Et cette référence à la Bible qui ouvre le texte après le mot feu, si énigmatique, si curieux, bien qu'on peut le comprendre précisément comme le feu qui brûle sans brûler le buisson ardent.
Lequel mot dans l'édition originale est suivi et précédé de lignes.
Effectivement. Alors il y a des lignes, il y a tout un jeu de lignes, il y a même une croix rayonnante à la fin de la copie que nous avons du parchemin, une croix rayonnante dont on a pu penser que le rayonnement évoquait précisément le rayonnement du buisson ardent. Et alors si l'on se réfère maintenant à la Bible qu'utilisait Pascal, eh bien Dieu ajoute donc je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et c'est mon mémorial dans le siècle des siècles. Et par conséquent on peut penser que le nom mémorial est inspiré par cette première citation qui identifie en quelque sorte Pascal au prophète qui, le premier, a vu Dieu, ou du moins a rencontré Dieu face à face et a demandé à Dieu son nom. Connaître le nom de Dieu, c'est le connaître. Je t'ai connu, comme le dit ici Pascal dans le mémorial.
Si j'avais vu un miracle, disent-ils, je me convertirais. Comment assurent-ils qu'ils feraient ce qu'ils ignorent? Ils s'imaginent que cette conversion consiste en une adoration qui se fait de Dieu comme un commerce et une conversation telle qu'ils se la figurent. La conversion véritable consiste à s'anéantir devant cet être universel qu'on a irrité tant de fois et qui peut vous perdre légitimement à toute heure, à reconnaître qu'on ne peut rien sans lui, et qu'on n'a rien mérité de lui que sa disgrâce. Elle consiste à reconnaître qu'il y a une opposition invincible entre Dieu et nous, et que sans un médiateur, il ne peut y avoir de commerce.
C'est le cœur ici qui sent, et non pas la raison qui déroule, qui développe son discours.
Alors,
discours
Pascal est le père de ce qui est devenu un lieu commun, qui veut que le cœur ait ses raisons, que la raison ignore.
Oui, et alors, en effet, le cœur a ses raisons que la raison ignore, ça ne veut pas dire qu'il y a un discours du cœur, je pense, qui est étranger au discours de la raison. Cela veut dire plutôt que tout discours fondé en raison, et Pascal pense qu'il n'y a de discours construit et communicable que fondé en raison, s'enracine toujours sur une intuition première, originaire, qui est aperçue par le cœur. Et cela est vrai même pour la mathématique, puisque il y a cette pensée très étonnante où Pascal nous dit c'est le cœur qui dit qu'il y a trois dimensions dans l'espace, qui pose les axiomes de la géométrie d'Euclide. Donc c'est le cœur qui sent ce qui est au fondement, sans lequel la raison serait précipitée dans l'abîme, puisque le propre de la raison, c'est que toujours aliénée à ce sens qui lui est primitivement donné, eh bien, elle peut lier les arguments, mais n'est jamais capable d'instituer une origine.
Quand on donne la définition d'un mot, c'est avec d'autres mots qu'on le fait. Mais ces autres mots eux-mêmes sont justiciables d'une définition, et ainsi de suite, à l'infini. Dans un dictionnaire, c'est-à-dire là où, dans le meilleur des cas, le bateau est une grande barque et la barque est définie comme un petit bateau, l'homme qui cherche tourne en rond ou bien fait du surplace. Un dictionnaire donne en d'autres termes la définition d'un mot, mais il n'en donne pas le sens. Et qui se contente d'une définition s'expose, s'il est consciencieux, à tourner sur lui-même comme une toupie ou encore à régresser sans fin. Mais alors, d'où vient le sens, s'il n'est pas dans la définition? Et comment le trouver, puisqu'il est vain de partir à sa recherche? De la même façon, toute démonstration repose sur un principe qui la fonde, qui la rend possible, mais qui, pour lui-même, y échappe. Le principe de la démonstration n'est pas démontrable, sinon il ne serait pas un principe, il ne serait pas premier. Comme dit Aristote, il faut bien s'arrêter quelque part pour commencer quelque chose. La notion de principe, comme l'existence de Dieu, est aussi nécessaire qu'inexplicable, aussi indémontrable qu'irréfutable. Ce qui est extraordinaire chez Pascal, c'est qu'il se situe à mi-chemin entre les sceptiques ou Montaigne, qui font du doute le sujet de la joie, et les cartésiens qui ne doutent qu'à moitié, mais saisissent le vrai uniquement par la raison. Misère, donc, de l'homme sans Dieu. Les libertins se bandent les yeux, et les athées, qui pour avoir voulu tout démontrer, y compris l'indémontrable, succombent au vertige du non-sens, se trompent de chemin, et manquent de la force d'esprit nécessaire à la réception du sens. Mais misère aussi de l'homme qui tient la raison pour la maîtresse du cœur, et croit que même Dieu se démontre. Sans doute, le vrai christianisme, lui, soumet la raison et s'en sert. Par définition, le sens est donné. Comme Dieu se fait entendre à l'auteur du mémorial, certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Le passage à la vérité n'est qu'une grâce consentie sans raison par un Dieu qui se cache. C'est une inclination du cœur qui traverse le vide, une croix de lumière où la raison s'enroule comme le serpent sur un arbre. Les principes se sentent, dit Pascal. Le moi se dissout. L'humilité remplace l'arrogance et le sens, alors, est un cadeau, comme l'inspiration.
Contradiction est une mauvaise marque de vérité. Plusieurs choses certaines sont contredites. Plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni la contradiction n'est marque de fausseté, ni l'incontradiction n'est marque de vérité.
Oui, que l'incontradiction, que la non-contradiction ne soit pas marque de vérité, chacun le sait. Il y a des délires qui sont parfaitement cohérents.
Jacques Dariulin.
Quant à la contradiction qui n'est pas marque de fausseté, je crois que il faut penser que le plus contradictoire pour l'homme est l'homme lui-même, puisqu'il est déchiré entre deux infinis, précisément, et que la contradiction est plutôt, alors pour employer un mot kierkegaardien, précisément la conscience du paradoxe de l'existence, c'est-à-dire que elle est indépassable, elle est une croix qui déchire l'esprit, et que prendre conscience de la contradiction, c'est se trouver au seuil de l'abîme, au seuil du pari, où seul un saut, qui est cette donation du sens qui me vient toujours d'un autre, que l'esprit n'est pas en mesure de se donner à lui-même, d'effectuer pour lui-même, à laquelle seul ce saut peut m'arracher. Tout discours est fondé effectivement sur une appréhension du cœur, pour parler comme Pascal, qui est incliné par la grâce, c'est-à-dire par la donation du sens, et sans cette vue originaire, cette connaissance, hein, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, dit-il, sans cette connaissance première, eh bien, la raison est impuissante à formuler le sens. Et de même, au fond, c'est le problème de la lecture, ou le problème de l'écoute musicale. Je crois que il suffit que chacun pense à son expérience personnelle pour sentir immédiatement la vérité de ce que dit ici Pascal. Il nous arrive d'écouter la musique plusieurs fois sans rien entendre, et lorsque nous entendons en général immédiatement. C'est-à-dire il y a une rencontre qui s'effectue et qui est le signe que nous avons perçu ce point central depuis lequel diffuse le sens. De même, il est possible de lire un écrivain plusieurs fois sans rien entendre, et là encore, il y aura une lecture qui sera décisive et qui donnera sens à tout le texte depuis ce centre, qui ne peut être que donné au cœur, mais jamais construit par la raison. C'est exactement ce que veut dire Pascal dans cette division du cœur et de la raison. Il ne veut nullement dire qu'il y a un discours du cœur qui est étranger à la raison. Il veut dire que la raison a toujours besoin du cœur comme d'un point d'appui ou d'un point d'Archimède, pour reprendre l'image célèbre de Descartes. Descartes inutile et incertain, dit Pascal. Et la philosophie ne vaut pas une heure de peine et... se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher, on connaît ces formules pascaliennes. Cela veut dire que pour Pascal, la pensée est incapable de trouver par elle-même son propre point d'appui. Et que la raison, donc, non seulement est se réfère à un cœur qui seul est originaire, qui donne le sens premier, mais cela signifie, c'est un peu la même chose, d'ailleurs, cela signifie que la raison humaine est aliénée, elle n'est pas du tout ce qui fonde l'autonomie ou la dignité de la personne morale, selon la tradition philosophique, ou du sujet spéculatif, selon le mouvement de la méditation cartésienne. La raison est aliénée, elle dépend d'un autre, et elle ne saurait par elle-même délivrer le sens. La raison est impuissante à construire un discours tant que la donation du sens originaire n'a pas été ressentie par le cœur. Et par conséquent, c'est le cœur qui donne l'impulsion. Et la raison ne fait que dérouler dans le temps ce que le cœur a aperçu dans l'éternité en un seul instant.
Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée devant l'éternité précédent et suivant, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que l'or. Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités.
Le principe de non-contradiction, qui pose que deux propositions dont l'une est la négation de l'autre ne peuvent pas être vraies ensemble, interdit finalement à l'homme d'être grand et petit à la fois. Pourtant, égarés entre Dieu et le néant, nous sommes infimes à l'œil de l'univers, mais gigantesques à l'égard d'un microbe. Chaque chose est un géant minuscule perdu entre deux infinis. C'est pourquoi Pascal dit de l'homme, s'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante, et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Contrairement à ce que pense Descartes quand il pense, nous ne sommes pas consistants, nous ne sommes rien qui mérite qu'on s'y attarde. Le sujet cartésien se donne une terre ferme. Il part du sentiment de son existence et de la plénitude qui le constitue. Pascal, de son côté, part du néant et creuse le vide avec un scalpel. Le sujet cartésien louche sur lui-même et voit au-delà des phénomènes. L'homme pascalien ouvre les yeux et regarde simplement les ténèbres. Descartes commence par la chose pensante, Pascal par le néant. Descartes dit « je pense, donc je suis ». Pascal dit « je m'ennuie, car je ne suis rien ». Et si je suis grand, c'est de me savoir misérable par-delà la parade sociale où les hommes s'entreflattent. Descartes dit « moi je », Pascal répond que le moi est haïssable. Pour le janséniste mathématicien, l'identité, c'est le cache-sexe du vide. D'ailleurs, en ces temps de grande ferveur sécuritaire où on croit qu'il suffit de ne plus fumer ou de fermer sa porte à clé pour ne jamais mourir, il y a des interphones au pied de chaque immeuble et partout des humains différents qui sonnent et qui, quand on leur répond, prennent leur souffle et disent dans un micro « c'est moi ».
Car enfin, qu'est-ce qu'un homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini ? Un tout à l'égard du néant ? Un milieu ? Entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti, que fera-t-il donc sinon d'apercevoir quelque apparence du milieu des choses dans un désespoir éternel de connaître ni leurs principes ni leurs fins ?
Il y a en moi du néant.
Jacques Dariulin.
Il y a en moi du néant, et ce néant, qui est la misère de l'homme, mais c'est la grandeur de l'homme que de savoir penser sa misère, et penser, chez Pascal, c'est toujours peser l'incompréhensible, et peser le poids de ce néant qui nous accable. Il y a du néant par-delà le jeu de la parade sociale, ce moi qui est un masque par lequel nous nous entretrompons et nous nous entreflattons, comme il le dit d'ailleurs en citant presque Montaigne. Donc une fois que ce masque social s'effondre, je découvre non pas mon identité pour Pascal, mais je découvre un néant. On peut dire que c'est vraiment quelque chose, le mot dépression aujourd'hui dit assez cela. Il y a une dépression géologique lorsqu'il y a une cavité souterraine et que la surface fragile s'effondre tout d'un coup. Le moi ainsi n'est qu'une surface, une image que nous utilisons pour recouvrir un précipice, dit Pascal, pour mieux nous y jeter la tête la première. Et quand ce moi se lézarde, par suite des...
Cette phrase, il dit « nous courons sans souci dans le précipice, voilà, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir ».
Exactement, exactement. Merci de cette citation exacte à laquelle je faisais allusion. Et ce quelque chose que nous mettons sur le précipice, c'est ce que nous appelons le « moi ». Vis-à-vis duquel nous avons une relation très complaisante. On adore faire des tests de personnalité où les adolescents aiment les journaux intimes dans lesquels ils cultivent l'image du moi. Et cette image du moi, bien entendu, c'est une... dans ces journaux intimes, rien n'est moins intime que ces journaux, puisqu'on ne parle que des autres. Il s'agit toujours de savoir l'effet qu'on a fait sur les autres. Et l'image du moi n'existe que par la médiation du regard d'autrui.
La nature de l'amour propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères. Il veut être grand et il se voit petit. Il veut être heureux et il se voit misérable. Il veut être parfait et il se voit plein d'imperfections. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer. Car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir. Et ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit autant qu'il peut dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir ni qu'on les voie.
Lorsque ce mirage ou cette illusion de l'amour propre par laquelle nous nous imaginons au centre de tout, nous voulons faire le roi et nous mettre au centre, comme dit Pascal, lorsque cette illusion se lézarde et il suffit... d'une blessure infligée à l'amour propre, il suffit d'une humiliation ou d'une cuisante défaite dans l'existence, comme chacun rencontrera nécessairement, pour que cet édifice se lézarde et s'effondre, alors nous découvrons le néant intérieur, ce vide, ce néant que nous sommes pour nous-mêmes, ce monstre incompréhensible, comme dit Pascal dans son langage très fort, que nous sommes pour nous-mêmes. Et alors nous vivons, non pas... Pascal ne parle pas de dépression, mais il s'agit bien ici d'un effondrement central
parce que nous sommes essentiellement constitués de vide et de néant depuis que, selon Pascal, nous nous sommes révoltés de Dieu, alors nous éprouvons cette passion que Pascal nomme l'ennui.
Qu'il a vécu lui-même. C'est une expérience qu'il a faite.
Absolument.
Qu'il a vécu dans les mondanités, dont il a fait l'expérience empirique. Il a eu le sentiment de la vanité ou de l'ennui dans sa propre existence et de façon assez commune, finalement.
Oui. Je ne sais pas s'il a éprouvé l'ennui dans les mondanités. Il faut se méfier peut-être d'une image trop religieuse de Pascal. Il est toujours resté très lié avec le duc de Rohanès. Et les mondanités en question... Enfin, Pascal fréquentait un cercle d'esprit tout à fait remarquable. Et ses travaux scientifiques, ses réflexions sur la morale et sur la politique en rapport avec le chevalier de Néret ou le duc de Rohanès n'étaient pas du tout des mondanités futiles, mais un cercle intellectuel de très grande qualité. Mais il est vrai, et là vous avez raison, que Pascal ressent avec une violence, je dirais, enfin qui prend à la gorge quand on le lit, enfin qui est absolument suffocante, le vide de l'existence humaine et sa misère radicale, cette absence radicale de sens qui fait la misère de l'homme. Et il y a des moments, oui, alors où Pascal éprouve cet accablement ou cet ennui, comme il le dit, et il est évident que dans la période qui précède le mémorial, à l'aide de sa sœur Jacqueline en témoigne, il a éprouvé ce sentiment de vanité ou d'impuissance de la raison qui, si brillante soit-elle, et Dieu sait qu'elle était extraordinairement brillante, dans un esprit comme celui de Pascal, eh bien, est incapable de, comme il le dit, de donner le prix aux choses. La raison a beau crier, elle ne saurait donner le prix aux choses.
Ou leur
ce n'est
valeur.
Pas elle, la valeur, ce n'est pas elle qui peut décider de la valeur de notre vie, ni de son orientation première.
Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. La nature ne m'offre rien qui ne soit matière de doute et d'inquiétude. Si je n'y voyais rien qui ne marquât une divinité, je me déterminerais à la négative. Si je voyais partout les marques d'un créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais voyant trop pour nier et trop peu pour m'assurer, je suis dans un état à plaindre. En l'état où je suis, ignorant ce que je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni ma condition ni mon devoir. Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien pour le suivre. Rien ne me serait trop cher pour l'éternité. Je porte envie à ceux que je vois dans la foi vivre avec tant de négligence et qui usent si mal d'un don duquel il me semble que je ferais un usage si différent.
L'ennui est une passion chez Pascal. C'est une passion, c'est la plus forte des passions, puisqu'elle ébranle tout notre être, le démobilise et le déprime. Il y a toute une histoire de la mélancolie. On connaît la célèbre gravure de Dürer de 1514, de l'acédia, cette sorte de dépression qui saisit les religieux sur lesquels le Moyen-Âge avait beaucoup écrit et pensé. Chez Pascal, l'ennui est la passion première. On peut dire que toutes les passions sont des formations secondaires pour... parler un peu le vocabulaire de la psychanalyse par rapport à l'ennui qui est la passion première. Au fond, on pourrait dire que pour Pascal, les hommes ne sont jamais ni vraiment en colère, ni vraiment avares, ni vraiment amoureux. Ils font toujours un peu semblant d'être en colère, avares et amoureux, car ils ne se précipitent dans ces passions que pour se divertir, que pour esquiver, que pour faire diversion par rapport à la passion absolument fondamentale qui est l'ennui.
Il dit ceci, il dit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser, de là toutes les stratégies du divertissement, voilà. Qui en fait résume la totalité des activités humaines. On passe notre oui. temps à oublier que le temps n'est rien au regard de l'éternité, ou plutôt que à oublier que nous allons mourir, non ?»
Oui, oui.
Misère. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères, car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui. Et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort.
Divertissement qu'il faut comprendre comme une diversion, donc du néant brusquement démasqué.
Jacques Dargulin.
Je ne crois pas je me méfie un peu de ce mot divertissement qui a pris un sens un peu futile. Rien n'est plus grave.
C'est plutôt logique, non, qu'il ait pris un sens futile. C'est précisément le divertissement par lequel l'homme oppose, c'est le voile qu'on se met devant les yeux pour courir dans le précipice.
Oui, mais...
Ce que je veux dire, c'est que, pardonnez-moi, mais en termes d'expérience humaine, toute bête, c'est que la somme des activités qui sont les nôtres, quoi qu'on fasse et quelles que soient nos occupations, tout homme, même le plus occupé d'entre nous, peut toujours, à un moment ou un autre de la journée ou de la vie, se retourner sur ses activités et s'apercevoir qu'elles ne sont que des voiles qui dissipent l'éminence, non pas du cœur sur la raison, mais de la mort sur la vie.
Oui, je crois pourtant qu'il y a, disons, deux formes du divertissement. Il y a ceux qui n'ont jamais rencontré le néant, qui n'ont jamais pris conscience de ce que vous venez de dire. Ils font les économies, ils se marient, ils font des enfants, la vie est toute tracée, la société leur donne un programme.
Ils accumulent.
Ceux-là, pour Pascal, seront damnés sans rémission. Car ils n'ont même pas pensé. Le moi s'est toujours cru au centre.
C'est-à-dire qu'ils ont vécu sans vivre.
Ils ont vécu sans vivre si, comme le dit magnifiquement Pascal, l'homme est visiblement fait pour penser. Et penser, c'est peser le poids du néant. Donc ceux-là ont vécu dans l'inconscience. Ils n'ont même pas même pris conscience de... Ils n'ont pas aperçu cet abîme, hein, ce double abîme qui fait la disproportion de l'homme dans l'univers et dans sa condition, pour reprendre les mots de Pascal. Et par conséquent, ils ont vécu dans l'inconscience, en deçà de la pensée.
Ils n'ont pas été effrayés par ce que Pascal appelle le silence éternel de ces espaces infinis.
Exactement.
Ils n'ont pas vécu cet effroi-là, ce sentiment d'abandon entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, deux infinis aussi vastes l'un que l'autre, et au milieu desquels l'homme se trouve comme un espèce de point aveugle et inutile.
Oui.
Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place, ou n'achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de nous bouger de la ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. D'où vient que cet homme qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui, accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n'y pense plus maintenant? Ne vous en étonnez pas. Il est tout occupé à voir par où passera ce sanglier que les chiens poursuivent avec tant d'ardeur depuis 6 heures. Il n'en faut pas davantage. L'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit, si on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et occupé par quelque passion ou quelque amusement qui empêche l'ennui de se répandre, sera bientôt chagrin et malheureux. Sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. Et c'est ainsi ce qui forme le bonheur des personnes.
S'il y a un divertissement futile, qui n'est même pas un divertissement...
Jacques Dariula.
Puisque celui qui n'a pas vu le néant ne se divertit pas, il ne fait pas diversion puisqu'il n'a pas vu l'ennemi. C'est plutôt l'esprit de sérieux, c'est la bêtise du sérieux. Et alors, il y a en revanche ce que Pascal nomme le divertissement, qui me paraît assez grave, et on peut revenir sur ce point, car seuls se divertissent ceux qui ont rencontré le néant. Et par conséquent, rien n'est plus solennel, rien n'est plus grave, c'est presque une liturgie que la mise en scène, je dirais, du divertissement. Par exemple, cet homme vient de perdre son fils unique le matin. Et que fait-il l'après-midi? Il traque un sanglier que ses chiens poursuivent depuis 6 heures, dit-il. Un texte dans ce style implacable, qui est le propre de Pascal. Je ne crois pas que la chasse soit futile. Je pense que le chasseur ne chasse bien que parce qu'il se sait chasser, pourrions-nous dire, comme disent les enfants, le vrai chasseur est le chasseur se sachant chasser, et que seul celui qui a vu sa mort sur la mort de son fils unique transfère en un second temps, par une sorte de réaction quasi instinctive, transfère ce rapport au néant auquel il a été assujetti sur un animal qui n'est pas un sanglier. Le sanglier n'est un sanglier que lorsque, à la fin de la chasse, il est mort, mais tout le monde sait que les fins de partie et les fins de chasse sont toujours tristes, précisément parce que l'illusion prend fin. Dans le temps de la chasse, le sanglier est la mort elle-même. Et par conséquent, le chasseur transforme cette situation de suggestion dans laquelle nous sommes par rapport à la mort, en une situation de domination. C'est lui qui poursuit la mort. Et dans le temps de la chasse, la relation est ambivalente. On ne sait jamais qui est chassé et qui est chasseur avant que le coup fatal ne soit donné. Celui qui donne la mort se sauve de la mort. Et par conséquent, il y a dans le divertissement quelque chose de très grave. Et ceux qui se divertissent sont au moins inquiétés ou traqués par le néant. Regardez les joueurs d'échecs, c'est la même chose. Tout jeu est un renversement imaginaire de notre situation, de notre suggestion, de notre aliénation, de notre fragilité devant la mort. Dans le jeu d'échecs, les joueurs ne sont plus sur l'échiquier, comme c'est le cas de tous les vivants, qui sommes ballottés par des armées dont les guerres déchirent le monde.
Non, mais ils ont le monde sous les yeux en 64 cases.
Ils le dominent. C'est eux qui tiennent le destin du monde. Et par conséquent, ils sont maîtres. Ils ont renversé cette situation de suggestion par laquelle ils ont aperçu leur néant. Et regardez des joueurs d'échecs, eh bien, ils n'ont pas du tout l'air de s'amuser. Rien n'est moins futile que des joueurs. D'ailleurs, il suffit de voir un championnat d'échecs pour voir à quel point la partie se déroule selon un rituel qui évoque irrésistiblement la messe. C'est véritablement la mise en place d'un rituel sacré. Et c'est précisément le sentiment de la proximité du néant qui fait toute la tension du jeu, je dirais toute la beauté du jeu, toute la grandeur du jeu, comme une sorte de réponse héroïque, mais simplement humaine, donc selon Pascal Veyne, à la rencontre du néant. C'est pourquoi, bon, le suprême joueur est Don Juan, qui choisit le fini contre l'infini, pour reprendre les termes du pari de Pascal. Je crois que Don Juan, d'ailleurs, c'est bien ce que dit la légende, n'est pas loin du converti ou du mystique, c'est ce que dit la légende espagnole. Et celui qui flambe sa vie en un jeu risqué en une nuit est plus proche du saint, car il connaît la terrible imminence du néant, que celui qui a passé toute sa vie dans l'aveuglement du sérieux et du conformisme. C'est pourquoi j'inclinerais à croire que pour un esprit comme Pascal, celui qui se divertit avec passion
ne perd pas son temps.
Ne perd pas son temps, ou du moins, ceux qui font les philosophes là-dessus, dit écrit Pascal, et qui disent qu'il est vain de passer toute la journée à courir après un lièvre, ne savent pas ce qu'ils disent.
Divertissement. On charge les hommes dès l'enfance du soin de leur honneur, de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de l'honneur de leurs amis. On les accable d'affaires, de l'apprentissage des langues et d'exercices. Et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état, et qu'une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi, on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux? Comment ce qu'on pourrait faire? Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins. Car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c'est pourquoi, après leur avoir tant préparé d'affaires, s'ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l'employer à se divertir, à jouer et s'occuper toujours, tout entier. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures.
Ce n'est pas méconnaître la raison que de la soumettre à l'ordre du cœur. Chateaubriand dit de Pascal qu'il est un effrayant génie. À 12 ans, le jeune homme découvre tout seul que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. À 16 ans, il rédige un essai sur les coniques, dans lequel il énonce le théorème de Pascal. À 19 ans, pour aider son père dans son travail de comptabilité fiscale, il invente la calculatrice, la Pascaline, qui additionne, soustrait, multiplie et divise grâce à un système composé de 6 roues à 10 dents. En 1648, dans le récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs, Pascal confirme entre autres la réalité du vide et de la pression atmosphérique. À la demande du duc de Roannaise, il participe à l'assèchement des marais Poitevin, puis il crée les premiers transports en commun, des lignes de carrosses à 5 sols qui circulent dans Paris. Puis il invente la presse hydraulique, clarifie le calcul infinitésimal et fonde avec Fermat le calcul des probabilités. C'est donc en connaissance de cause que Pascal peut affirmer à qui peut l'entendre, le cœur a ses raisons, que la raison ignore.
La religion chrétienne apprend au juste qu'elle élève jusqu'à la participation de la divinité même, qu'en ce sublime état, ils portent encore la source de toute la corruption qui les rend durant toute la vie sujets à l'erreur, à la misère, à la mort, au péché. Et elle crie aux plus impies qu'ils sont capables de la grâce de leur Rédempteur. Ainsi, donnant à trembler à ceux qu'elle justifie et consolant ceux qu'elle condamne, elle tempère avec tant de justesse la crainte avec l'espérance par cette double capacité qui est commune à tous et de grâce et du péché, qu'elle abaisse infiniment plus que la seule raison ne peut faire, mais sans désespérer, et qu'elle élève infiniment plus que l'orgueil de la nature, mais sans enfler, faisant bien voir par là qu'étant seule exempte d'erreurs et de vices, il n'appartient qu'à elle et d'instruire et de corriger les hommes. Le christianisme est étrange. Il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil et même abominable, et lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation le rendrait horriblement vain, ou cet abaissement le rendrait horriblement abject.
En fait, sans la grâce, il n'y a pas d'autre moyen de vivre. Et ceux qui vivent ainsi savent au moins que leur vie est un jeu où il faut jouer le tout pour le tout, et où à chaque instant on risque le tout pour le tout. Donc ils connaissent l'impasse terrible dans laquelle se trouve notre condition. Ceux qui s'en sortiront, ceux qui pourront échapper à la stratégie, je le dirais quasi rituelle de la diversion ou du divertissement, ne sont pas ceux qui, par leur pensée, sont plus grands ou plus géniaux que les autres. Ça serait la tomber encore dans l'orgueil et la vanité du moi. Mais sont ceux dont le cœur a été touché par la grâce divine. Seul Dieu peut donner à l'homme du divertissement, paniqué par la traque du néant, peut donner le point d'appui qui lui permet de se rétablir dans l'être et de transformer le désespoir, ce désespoir qui fait que tout divertissement prend l'allure d'une chasse, d'une course, d'une précipitation. La paix et le repos ici sont impossibles, car dès que je m'arrête, dès que je suis en paix seul dans ma chambre, je retrouve le spectre terrible de l'ennui. Seul un Dieu, seule une lumière plus qu'humaine, une grâce plus qu'humaine peut me sauver de l'abîme de l'ennui.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais.
Cette pensée illustre peut-être les deux versions que vous donnez du divertissement. La première d'entre elles, la cécité native de l'homme qui se divertit d'emblée et qui donc ne regarde pas au-delà de lui-même, c'est-à-dire ne prend pas la peine de voir ce qu'il attend, ou en tout cas passe son temps à y échapper. Celui-là n'est jamais heureux puisqu'il se dispose toujours à l'être. On pourrait aussi dire à l'inverse que celui qui vit chaque instant, à la façon du joueur d'échecs par exemple, ou à la façon du joueur sérieux, en définitive, n'ajourne pas le sentiment du néant, mais finalement le subvertit à chaque moment de la vie.
Oui. Oui, Pascal dit merveilleusement, nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres, et ce n'est pas ici le pays de la vérité.
Jacques Barulla.
Mais en fait, comment vivre dans un temps qui serait le nôtre, puisque l'homme est comme un roi dépossédé en exil sur la terre et dans l'histoire, dans le temps qui est le nôtre, c'est l'éternité.
C'est justement cet intervalle entre 10h30 et minuit et demi qui marque l'intervalle du mémorial.
Mais c'est
l'intervalle
du temps, temporel. Ça, c'est de l'éternité, non. Ça se compte.
Je ne pense pas qu'entre 10h30 et minuit et demi, il y a 2 heures.
Mais comment? Il y a quoi entre 10h30 et minuit et demi?
Il y a l'infinité des temps. C'est-à-dire, il y a une vision, une intuition du cœur qui rétablit ce qui a été dépravé par l'anamorphose de la temporalité, c'est-à-dire de la chute.
Je comprends pas. Le temps dépravé par l'anamorphose,
Alors, que dit la Bible? Le plan par lequel Dieu choisit de réaliser le salut d'une créature qui s'est révoltée de lui et qui ne peut se sauver qu'en se convertissant à lui qui est l'unique centre, le centre de tout. Un plan suppose un déroulement temporel. Effectivement, il y a une histoire, il y a une théorie de l'histoire chrétienne, une théorie de l'histoire messianique, la cité de Dieu, enfin, l'ouvrage d'Augustin en donne les fondements. Mais il est bien évident que, si on peut dire, du point de vue de Dieu, ou au sommet du cône, pour reprendre l'image de l'Essai pour les coniques, ce texte de géométrie que Pascal a rédigé à l'âge de 16 ans, et qui justifie l'expression de terrifiant génie qu'on lui attribuera. Du point de vue de Dieu, donc, si on me permet cette expression, il n'y a pas de plan. Tout est réalisé dans l'instant de l'éternité. Il y a donc, s'il nous était possible de nous hisser au sommet du cône de l'histoire, tout ce qui s'accomplit péniblement dans la durée, dans l'effort et dans le devenir pour la mort, la fatigue qui marque l'existence des hommes, est donné en une vision instantanée du point de vue de l'éternité. Je crois que l'intuition du cœur qui fonde le discours de la raison est un peu, doit être pensée un peu sur ce modèle. La grâce divine hisse la créature au point de vue de l'éternité, lui fait apercevoir en un instant, qui n'est plus un instant dans le temps, qui est un instant arraché au temps. C'est pourquoi je dis qu'entre 10h30 et minuit et demi, il n'y a pas 2 heures. Il y a un intervalle d'éternité qui contient le secret qui va se développer pendant les millénaires du plan de la rédemption, et que l'esprit qui n'a pas été ainsi porté dans ce résumé de l'histoire, dans l'instant de l'éternité, eh bien, que l'esprit qui n'a pas connu donc cette grâce ne peut connaître que selon la logique du développement temporel, qui est précisément la logique discursive, du discours, de la méthode, du chemin de la raison, du cheminement. Mais le cheminement n'existe que pour la créature. Du point de vue de la vérité, si la vérité ne peut se penser que dans l'absolu et non pas dans le monde relatif des hommes, la vérité est donnée dans l'instant. Et c'est bien ce que voit le cœur. La raison ne fait que traduire, projeter, pour ainsi dire, sur le plan de la temporalité, ce qui a été donné dans l'instant de l'éternité.
Connaissons donc notre portée. Nous sommes quelque chose et nous ne sommes pas tout. Ce que nous avons d'être nous dérobe la connaissance des premiers principes qui naissent du néant. Et le peu que nous avons d'être nous cache la vue de l'infini. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
On pourrait traduire ce que vous dites dans le simple fait que un instant, en valeur absolue, est sur le fil du temps non quantifiable. À la façon dont un point est non quantifiable et dont pourtant une droite ou un segment n'est jamais qu'une suite de points. Pascal était un mathématicien qui a développé le calcul infinitésimal. Il y a peut-être un lien entre ce talent qu'il avait de penser le calcul infinitésimal, un peu comme Leibniz d'ailleurs a pu le faire en parlant de la monade qui elle-même aussi est non quantifiable, et cette intuition d'un instant arraché au temps. Finalement, tous les instants sont arrachés au temps. On pourrait décomposer le temps vécu par nous, le temps que nous passons ici à la maison de la radio à discuter du mémorial, on pourrait le décomposer en une série absolument infinie ou indéfinie d'instants qui en eux-mêmes sont non quantifiables.
J'aimerais bien. Ça serait la vie rêvée. Pascal laisse entendre que ceci vient d'une grâce qui ne dépend pas de nous. Mais vous avez raison de faire allusion au Pascal mathématicien, alors dont Leibniz a reconnu l'apport. D'ailleurs, Leibniz avait été très intéressé par cet essai pour les coniques, que nous ne connaissons maintenant que plus que par quelques fragments, par quelques pages, Et il s'était intéressé aussi aux travaux de Pascal sur les indivisibles, effectivement. Mais précisément,
ce qui est indivisible, c'est ce qui n'a pas de distance.
C'est la quantité différentielle, c'est-à-dire du point de vue du
c'est
mathématicien.
C'est la qualité.
Là, effectivement, c'est un terme mathématique étrange puisque c'est un terme mathématique qui n'est pas défini puisque on le pose aussi petit qu'on voudra, sans limite à cette petitesse puisqu'il tend à l'infini, il tend vers le néant. Seul le cœur peut donner une consistance ontologique, peut donner de l'être à l'instant de l'éternité. Lorsque la raison veut penser l'instant, elle obtient, cet instant est très riche dans la mesure où il va développer considérablement les puissances du calcul et faire un progrès absolument fondamental, un des plus grands progrès dans l'histoire des mathématiques. C'est un moment tout à fait essentiel que cette fondation de la méthode du calcul infinitésimal. Mais cependant, la raison est incapable de donner de l'existence à l'indivisible. Et dans le calcul, la grandeur différentielle finit toujours par être annulée. D'ailleurs, il est évident que pour un mathématicien, une grandeur aussi petite qu'on voudra est une grandeur qui n'a pas de sens si elle se maintient dans l'équation. Donc elle doit être placée de telle façon à ce qu'on puisse, ce qui n'est pas du tout évident d'ailleurs, à ce qu'on puisse l'annuler à la fin du calcul. Tandis que l'instant d'éternité n'annule pas du tout l'indivisible. Il lui donne une consistance ontologique, au contraire si puissante qu'il contient toute l'histoire du monde, de la chute jusque à la rédemption. Donc il est au contraire le moment d'existence le plus intense, où le feu est le plus incandescent.
Merci Jacques Dariula pour cette conversation. C'était Commentaire consacré au mémorial de Pascal et à ses pensées. Merci à Georges Clès pour la lecture des textes, à Nathalie Trianda-Philides pour la réalisation, merci à Claire Poinsignon pour son aide, à Bernard Laniel et Yves Baudry pour la prise de son et le mixage. Alors, les pensées de Pascal sont rangées dans des ordres différents, selon les éditions, je dirais plutôt dans des désordres différents. Vous avez l'édition Brunschvicg, l'édition Kaplan, l'édition Lafuma, l'édition Le Guerne, l'édition Cellier, etc., etc. Et certains qui prétendent avoir mieux que d'autres saisi le fin mot des pensées de Pascal. Dieu merci, Pascal n'a pas eu le temps de transformer ses pensées en une apologie de la religion chrétienne comme il voulait le faire, et elles ne sont donc pour l'éternité que des notes en désordre, où le lecteur se perd, s'épouvante, s'humilie et s'élève au gré des pages. Peu importe donc l'ordre dans lequel on les dispose ou on les lit. L'essentiel est de se procurer, à peu de frais, en folio par exemple, ou au seuil, dans l'édition complète en un volume, le texte fatalement désordonné des pensées. Je signale aussi que Jacques Dariula est l'auteur de nombreux ouvrages sur la peinture, parmi lesquels un très beau livre intitulé « Métaphore du regard » est publié chez Lagune. Changement de décor dans 15 jours, puisque nous parlerons du Neveu de Rameau, le chef-d'œuvre de Diderot, en compagnie de Michel Delon, qui vient de publier le premier tome de ses œuvres complètes dans une nouvelle édition de la Pléiade. Mais tout de suite, la parole est à Christine Goémé.
La philosophie autrement. Non seulement la mystique a été l'occasion d'un grand nombre de propositions, débats et querelles théoriques, philosophiques, théologiques, politiques, et au XXe siècle psychanalytique, pensons à Jacques Lacan ou à Michel de Certeau, mais les mystiques eux-mêmes ont produit de la pensée, souvent sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain parlait en prose. Jacques Lebrun, bonjour, vous êtes directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Alors, la question mystique pose par excellence l'enjeu le plus brûlant qui soit, dire l'indicible et penser l'impensable.
Oui, je vous remercie. C'est une idée plus ou moins romantique que la mystique serait quelque chose de l'ordre de la sensibilité, de l'ineffable, de ce que Romain Rolland, dans sa correspondance avec Freud, appelait le sentiment océanique. En fait, il y a une pensée dans la mystique. Déjà, Jean Baruzzi, dans son grand travail sur Jean de la Croix, parlait d'une pensée mystique et il a consacré tout son travail à dégager les grandes lignes de cette pensée chez Jean de la Croix, chez Angelus Silesius et d'autres. À travers la mystique, donc, c'est toute une philosophie qui apparaît, une philosophie implicite. Une pensée, je dirais, implicite, qui ne s'exprime pas selon les cadres et selon les principes même du discours philosophique scolastique, mais qui se trouve à l'arrière-plan. Lorsque l'on parle de Dieu, par exemple, de l'être, lorsque l'on parle du bien, de la perfection, il y a derrière une pensée philosophique. Mais cette pensée philosophique peut avoir varié suivant les époques, suivant les temps, et c'est un des drames, je crois, de la mystique, mais peut-être une des nécessités même de cette pensée mystique, que d'aboutir à des sortes d'impasses à partir du moment où l'on essaie de présenter en théorie ce qui est cette pensée implicite. Je pense par exemple au XVIIe siècle. Pendant longtemps, cette pensée mystique reposait sur des sources lointainement néoplatoniciennes, en particulier la pensée de Denis d'Aréopagite, cet illustre inconnu, comme dira Bossuet, dont les œuvres, évidemment, apocryphes. Denis d'Aréopagite n'est pas le converti de saint Paul à l'Aréopage, mais un écrivain du IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ. Appuyé également sur Plotin, sur Hermès Trismégiste, cette pensée mystique s'appuyait donc sur ce néoplatonisme. Or, au XVIIe siècle, la pensée néoplatonicienne subit une crise radicale, une sorte d'effondrement, et c'est assez facile de comprendre qu'après Descartes, on ne pouvait plus penser l'être sous la forme d'une sorte de premier moteur d'où découlerait par une série d'influences, de hiérarchies successives, tout l'ensemble des êtres qui étaient appelés à remonter ensuite vers son origine.
Donc, évidemment, mise à mal de la vision, disons, hiérarchique du monde. Néanmoins, puisque vous parliez du XVIIe siècle, Jacques Lebrun, on a l'impression que il y a quand même une conjonction de sources très très diversifiées à cette époque. Donc, en effet, tout ce qui vient du monde médiéval, la mystique rhénane. Le néoplatonisme, en effet, bien qu'il soit mis à mal, mais enfin, il est quand même là, présent. La mystique espagnole également, qui ressurgit. Donc, au fond, quelque chose qui advient et qui fait qu'il y a toutes les mystiques possibles.
Oui,
qui se rejoignent.
Oui, vous avez raison. Le XVIIe siècle, on pourrait dire que c'est un siècle de confluence. Confluence de toutes ces influences que sont effectivement influences platoniciennes, antiques, influences de la mystique rhénane des rhéno-flamands, influences de l'Espagne, tout cela convergeant au XVIIe siècle et constituant un ensemble à une période de crise. C'est à la fois la confluence de toutes ces influences mystiques et en même temps la crise de la mystique. Et cette crise, je crois, a plusieurs origines. Elle vient peut-être du triomphe même de la mystique. Le triomphe même de la mystique est la nécessité de penser cette mystique selon les cadres intellectuels du cartésianisme, d'une pensée que l'on pourrait appeler, entre guillemets, moderne, conduit à une sorte d'éclatement de cet équilibre précaire, instable, qui jusque-là pouvait soutenir la pensée mystique. Or, je crois que le drame vient du succès de la mystique et de la tentative, en particulier de Fénelon, mais d'autres que Fénelon, de constituer en théorie et en système ce qui jusque-là était implicite, se glissait derrière le lyrisme de Jean de la Croix, par exemple, derrière la poésie métaphysique d'Angelus Silesius, le pèlerin chérubinique, ce très grand mystique allemand du milieu du XVIIe siècle. À partir du moment où l'on a essayé, c'était une nécessité, et la pensée même exigeait que l'on mit en forme de système cette pensée, les choses éclatent. Et c'est assez intéressant et en même temps, on pourrait dire presque tragique, de voir Fénelon remettre sans cesse sur le chantier des systèmes successifs pour essayer d'arriver à une théorie cohérente. Et à chaque fois qu'il arrive devant une impasse, recommencer, remettre sur le champ un autre système. Au départ, il pensait qu'il y avait une sorte de tradition de tradition qui, comme de la main à la main, secrètement, aurait permis de remonter jusqu'à l'Antiquité. Il s'est aperçu que, historiquement, évidemment, cela ne tenait pas. Cela ne marchait pas. Donc, il a essayé à nouveau frais de repenser la mystique. Mais je crois que ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Fénelon, c'est que Fénelon, Henri Gouillet l'avait très bien montré dans un grand livre intitulé « Fénelon philosophe », au départ, Fénelon est un philosophe. Fénelon s'intéresse à la philosophie. La première grande œuvre de Fénelon, peut-être une de ses plus grandes œuvres assez méconnues jusqu'à une date relativement récente, justement jusqu'aux travaux d'Henri Gouillet et de quelques autres, c'est sa réfutation du système de Malebranche. Sa réfutation du système de Malebranche est écrite par Fénelon à une époque où il ne connaît pas la mystique. Il n'a encore lu aucun texte mystique, c'est une œuvre de jeunesse qu'il a écrite d'ailleurs sous l'influence de Bossuet. Dans cette réfutation de Malebranche, il s'intéresse à des problèmes absolument centraux, ce problème de la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu est tout puissant? Est-ce qu'il y a une puissance absolue? Est-ce que, par exemple, il peut faire même que les grands principes ne soient pas les grands principes? Que 2 plus 2 n'égale pas 4, par exemple? Est-ce que Dieu peut faire qu'il annule simplement par un arbitraire que sa création disparaisse? La création qu'il est le sommet de l'œuvre de Dieu peut très bien disparaître, pense Fénelon, contrairement à Malebranche. Malebranche pense que Dieu a créé un ordre, et à partir du moment où il a créé cet ordre, il se soumet à cet ordre. Il ne peut pas détruire purement et simplement sa créature. Il ne peut pas condamner à l'enfer ceux qui l'aiment. Fénelon pense que la puissance de Dieu est une puissance absolue. Dieu peut condamner à l'enfer ceux qui l'aiment et ceux qui le servent. Dieu peut détruire sa créature. Il a la puissance d'un souverain absolu, qui n'est soumis à aucun ordre, à aucune règle, pas même morale.
Alors évidemment, mettre en système ce qui est au fond non systématisable, c'est une tâche tout de même impossible, Jacques Lebrun, puisque il s'agit de se perdre soi-même dans la mystique.
Oui, et c'est une tâche impossible et redoutable en même temps, car cela met en cause tous les principes de la théologie. La théologie pose l'existence d'un dieu rémunérateur, enfin d'un dieu qui récompense ou qui punit, suivant que sa créature lui obéit ou ne lui obéit pas, a une vie conforme à l'éthique qu'il a promue. Donc, la doctrine des fins dernières, si le paradis s'obtient pas par une vie vertueuse, toute la doctrine du paradis de l'enfer s'effondre, et également toute la doctrine de l'Église. Il n'y a plus besoin d'une Église qui vous ouvre le paradis ou qui vous empêche d'aller en enfer, puisque Dieu peut, j'allais dire d'un trait de plume, ou tout au moins d'un trait de volonté, peut annuler comme un souverain absolu ce qu'il a fait. Donc Fénelon se rend compte qu'il bute là sur un problème absolument radical, c'est-à-dire sur le problème de la puissance, de la volonté et de la perfection de l'être. Est-ce que la perfection de l'être implique une volonté absolue et arbitraire?
Alors, vous savez, Jacques Lebrun, que dans cette émission, on lit toujours un texte d'un philosophe, d'un écrivain ou d'un mystique. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi de nous lire et pourquoi
J'ai choisi le texte d'un capucin peu connu, Angélique d'Allègre, qui a publié en 1665 à Paris un livre intitulé « Le chrétien parfait » ou « Portrait des perfections divines tirées en l'homme sur son original ». En apparence, nous avons un livre de spiritualité, un livre de théologie mystique, comme l'écrit capucin. Or, on s'aperçoit que les développements de ce capucin sont des développements proprement philosophiques. Je cite par exemple un passage tiré d'un chapitre portant sur l'essence de Dieu. Le titre de ce chapitre, c'est « L'essence de Dieu est l'origine de toutes ses perfections et l'original de la nôtre ». Et voici quelques passages de ce capucin Angélique d'Allègre. « Puisque la philosophie reconnaît que la perfection est intime à l'être et l'une des propriétés inséparables de sa nature, il faut que la théologie publie que l'être souverain est souverainement parfait et contient en soi-même toutes les perfections qui sont imaginables. Néanmoins, elle avoue, par la même raison, que ce nom de « parfait » pris dans son origine, ne convient pas à Dieu en ce qu'il signifie une chose achevée, et Dieu n'étant point fait, ne peut être parfait. Mais la disette de notre langue nous contraint de nous servir de ce mot, à faute d'un plus propre, pour exprimer cette plénitude de perfection que nous concevons dans le premier des êtres. Disons donc, avec le sublime théologien Saint-Denis d'Aréopagite, que la divinité est parfaite parmi les êtres imparfaits, comme étant le principe et la source de toute perfection, et elle est imparfaite, ou plutôt non parfaite, parmi les êtres parfaits, comme étant plus que parfaite et infiniment élevée au-dessus de toutes les perfections créées. À travers cette page, qui est à la fois une page de théologie et de philosophie, nous voyons comment se lie dans la pensée mystique, se lie, s'associe dans la pensée mystique, philosophie et théologie. La question de l'être et de la perfection de l'être, c'est une question proprement philosophique que les philosophes ont longuement développée depuis l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mais à travers cette réflexion sur la perfection de l'être de Dieu, nous voyons apparaître ce qui est le fondement de ce que ce Capucin appelle à d'autres endroits de son livre une théologie mystique. En effet, dans la mesure où la perfection de l'essence de Dieu est l'image de la perfection de l'homme, où l'homme est image de ce qui est son origine, nous avons là une pensée qui peut-être est anachronique en 1665. Nous sommes près d'un quart de siècle après les œuvres de Descartes, et la pensée de Descartes à cette date a largement pénétré tout le champ de la philosophie. Une pensée peut-être anachronique, mais une pensée proprement philosophique. Plénitude de l'être, perfection de l'être, il montrera que ça implique aussi la perfection de la volonté, et nous voyons que nous sommes là sur le chemin de ce que, une vingtaine d'années plus tard, Fénelon essaiera de travailler, ce à quoi il s'affrontera, la question de la volonté absolue de Dieu et de la volonté arbitraire de Dieu.
Cela dit, on est toujours au bord de la théologie négative quand on entend ce genre de texte. Hein. On comprend très bien pourquoi, à un certain moment, des penseurs ont décidé de dire que Dieu était dans ce qu'il y avait, ou de plus petit, ou de plus infâme, etc. Parce que c'était la seule manière de rendre compte, justement, de cette... Alors, cette perfection, en effet, qui ne peut en aucun cas être parfaite, dite parfaite, puisque ça signifierait que le système est clos. On est toujours dans cette, avec les textes mystiques, on est toujours comme ça, dans cette espèce de mouvance entre deux abîmes.
Oui, dans la mesure où cette pensée mystique aboutit à une impossibilité, ou tout au moins à une pensée de l'impossible, qui est évidemment très difficile, et que les hommes du XVIIe siècle, Fénelon lui-même sans doute, n'avaient pas les moyens de traiter et de penser. Penser l'impossible, d'une certaine façon, Malebranche a essayé de le faire, Fénelon aussi, et ce sera la question à laquelle s'affronteront tous ceux qui tenteront de penser. C'est la mystique, et je pense au XXe siècle, par exemple, quelqu'un comme Lacan, que vous évoquiez tout à l'heure, ou comme Bataille également, qui lui-même s'est affronté à cette pensée de l'impossible.
Lacan disait le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Et en effet, la question du savoir est au cœur du dispositif.
Cette question est au cœur, elle est inévitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éviter. Absolument. Sous peine de dissoudre la mystique dans une sorte de vague sensibilité océanique et insignifiante, à la limite, insignifiante. Donc, il y a une nécessité de penser cet impossible, et en même temps, une impossibilité de le faire. Et je crois que, d'une certaine façon, on pourrait penser que c'est un échec de la pensée, c'est une ruine de la pensée et que nous n'avons qu'à se taire. En fait, il me semble que paradoxalement, c'est un des plus puissants stimulants de la pensée.
Oui.
Et je pense que mettre un horizon impossible à la pensée, c'est le moyen de ne pas arrêter à l'avance la pensée, de ne pas lui donner un terme, de ne pas l'arrêter dans une définition, dans un certain nombre de principes que l'on sait nécessaires d'élaborer, mais que l'on sait aussi qu'ils seront impossibles à élaborer. Et je crois que c'est peut-être ce qui fait la pérennité, finalement, de cette pensée mystique. D'une certaine façon, les textes, je pense à ce texte de Capucin que je citais tout à l'heure, est un texte daté, un texte anachronique, qui pour nos contemporains ne dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui. Mais d'une certaine façon, je pense que penser la mystique, c'est une tâche qui peut être renouvelée à chaque génération.
D'une certaine façon, quelqu'un comme Kant a aussi essayé de penser cet impossible. Les philosophes ont essayé de le faire. D'une certaine façon, au XXe siècle, la psychanalyse s'y est affrontée aussi. Donc c'est la possibilité, je crois, de renouvellement des problématiques qui me paraît ici tout à fait importante, et le signe non pas d'un échec de la pensée, mais d'une stimulation indéfinie.
Aller plus loin dans l'impensable, dire le plus possible pour aller du côté de l'indicible, je veux dire, c'est toujours le pari de la pensée elle-même, Jacques Lebrun.
Oui, d'où l'importance de la poésie, par exemple. L'importance de la poésie, de Jean de la Croix, par exemple.
Mais oui.
Comme l'expliquait bien Baruzzi dans les travaux fondamentaux que j'évoquais, et comme l'a évoqué aussi Michel de Certeau. La poésie, en effet, tient à quelque chose de l'impossible. La poésie essaie d'approcher ce qui ne peut pas s'approcher de façon absolument rigoureuse et systématique. De la même façon, la pensée psychanalytique, me semble, procède de la même façon. De la même façon, il n'y a pas de possibilité d'élaborer une sorte de théorie définitive, indépendamment de l'expérience de celui qui pratique la psychanalyse. De même, il n'est pas possible de dégager une pensée du lyrisme de Jean de la Croix de façon définitive. Mais il faut se replonger dans le poème